Dixième scène. La chambre à coucher. Chapitre 46. Lady Lundy fait son devoir. La scène s'ouvre dans une chambre à coucher et met en pleine lumière une dame au lit. Les personnes douces d'un sentiment irritable en matière de convenance et qui croient que leur devoir est de jeter les hauts cris au premier mot sont priées d'attendre cette fois avant de crier. La dame dont il s'agit ici n'étant autre que Lady Lundy elle-même, ce nom seul doit les rassurer. Les plus scrupuleuses convenances sont toujours observées par Milady, en quelque endroit qu'elle se trouve. Dire en somme qu'il peut résulter un avantage moral pour le lecteur de ce qu'au lieu de lui présenter sa seigneurie dans une position horizontale, nous la lui présenterions dans une situation verticale, cela reviendrait à soutenir que la vertu est une question de posture et qu'une femme cesse d'être respectable quand elle n'apparaît pas en toilette du matin ou du soir. Qui serait assez hardi pour soutenir ce paradoxe? Lady Lundy était au lit. Sa seigneurie avait reçu la lettre que Blanche lui avait écrite, lui annonçant la subite suspension du voyage de noces. Elle avait envoyé sa réponse à Sir Patrick. Nous avons déjà décrit l'effet produit par l'arrivée de cette lettre à l'ermitage. Cela fait, Lady Lundy sentit qu'elle se devait à elle-même de prendre une position convenable dans sa maison en attendant la réponse du baronet. Que doit faire une femme ayant l'esprit juste quand elle doit se croire l'objet d'une cruelle défiance de la part des membres de sa famille? Une femme ayant l'esprit juste doit ressentir assez vivement ce déplaisir pour en tomber malade. En conséquence, Lady Lundy était malade. Le cas étant sérieux, il fallait un habile praticien du plus haut grade dans le corps médical pour le traiter. Un médecin du voisinage de la ville de Kirkandrew fut mandé. Le praticien vint dans un équipage à deux chevaux. Il avait la tête chauve de rigueur et l'inévitable cravate blanche. Il tâta le pouls de sa seigneurie, lui adressa quelques questions, tourna le dos ensuite de cet air grave qu'un grand docteur seul sait prendre quand il est bien convaincu que sa malade se porte bien. Puis il s'écria sur le ton d'un homme qui croit à ce qu'il dit: « Ce sont les nerfs, Lady Lundy. Le repos au lit est absolument nécessaire. Je vais rédiger une ordonnance. » Il prescrivit, toujours avec la même gravité, « Esprit d'ammoniaque aromatisé, 15 gouttes. Esprit de lavande rouge, 10 gouttes. Sirop d'écorce d'orange, 2 grammes. Julep, camphre, 1 once. » Quand il eut écrit « Miss et Fiat Ossius » au lieu de « mélanger en une potion », quand il eut ajouté « terdie sumendus » au lieu de « prendre 3 fois par jour » et quand il eut certifié son latin en mettant au-dessous ses initiales, il ne lui resta plus qu'à saluer, qu'à glisser 2 guinées dans sa poche et à retourner à ses affaires. Sa conscience professionnelle lui disait qu'il avait agi comme un médecin qui a rempli son devoir. Lady Lundy était donc au lit. La partie visible de sa seigneurie était élégamment parée d'une superbe pointe de dentelle blanche autour de sa tête, d'une adorable camisole en batiste bordée de dentelle également blanche et de rubans lilas. Sur une table auprès du lit reposait la potion de lavande rouge, d'une couleur agréable aux yeux, d'une saveur qui n'avait rien de déplaisant au palais. Un livre de dévotion était aussi là, tout ouvert, et les livres de dépenses et le rapport journalier fait pour la cuisine apparaissaient modestement rangés derrière le livre pieux. Les nerfs de sa seigneurie, qu'on veuille bien le remarquer, ne dispensaient pas sa seigneurie de remplir ses devoirs de maîtresse de maison. Un éventail, un flacon d'odeur et un mouchoir étaient placés à sa portée sur le couvre-pied. La vaste chambre n'était que partiellement assombrie. Une des fenêtres restait ouverte pour laisser pénétrer la quantité cubique d'air nécessaire à sa seigneurie. Le défunt Sir Thomas, suspendu en effigie à la muraille, regardait la fenêtre. Pas une chaise hors de sa place, pas un vestige de vêtement hors des limites sacrées du cabinet de toilette ou des tiroirs. Les brillants trésors de la toilette étincelaient dans la pénombre et dans la partie la plus reculée de la pièce. Les pots et les cuvettes étaient de porcelaine blanche et sans tache, délicieuses à voir. De quelque côté que vous portiez vos regards, Tout était ordonné dans la chambre. Si vous regardiez le lit, vous y voyez une femme plus ordonnée que tout le reste, comme complément du tableau. On était au lendemain du jour de l'apparition d'Anne au cygne. L'après-midi touchait à sa fin. La femme de chambre de Lady Lundy entrebâilla la porte sans bruit et s'avança sur la pointe des pieds jusqu'au chevet. Les yeux de sa seigneurie étaient fermés. Sa seigneurie les ouvrit soudain.
« Je ne dors pas, Hopkins. Je souffre. Qu'y a-t-il ? »
Hopkins déposa deux cartes sur le couvre-pied. « Mistry Dolemine, Milady, et Mistry Glenarm. »
« Naturellement, on leur a dit que j'étais malade. »«
Oui, Milady, Mistress Glenarm m'a fait appeler. Elle est venue dans la bibliothèque et a écrit ce billet. » Hopkins remit le billet plié en forme de triangle.
« Sont-elles parties ?»«
Non, Milady. Mistress Glenarm m'a dit que oui ou non lui suffirait comme réponse si vous vouliez seulement lire ceci. »
C'est un manque de réflexion de la part de Mistress Glenarm dans un moment où le docteur me recommande un repos parfait, dit Lady Lundy. N'importe, un sacrifice de plus ou de moins est de peu de conséquences.
Elle se fortifiant en respirant le flacon d'odeur et ouvrit le billet. Il était ainsi conçu.
Bien désolé d'apprendre que vous êtes retenue prisonnière dans votre chambre. J'ai saisi l'occasion de la visite de Mistress Delamaine, espérant avoir la possibilité de vous poser une question. Votre inépuisable bonté me pardonnera-t-elle si je la lui adresse par écrit ? Avez-vous reçu quelque nouvelle inattendue de Mr. Arnold Brinkworth récemment ? Je veux dire, avez-vous appris quelque chose sur lui qui vous ait causé une grande surprise ? J'ai une sérieuse raison pour vous demander cela. Je vous la dirai dès que vous serez en état de me recevoir. Jusqu'alors, un seul mot de réponse est tout ce que je désire. Faites-moi connaître ce mot, oui ou non. Mille excuses et prompte guérison.
La singulière question contenue dans ce billet mit l'imagination de Lady Lundy en demeure de choisir entre deux déductions. Ou Mistress Glenarm avait appris le retour inattendu du jeune couple en Angleterre, ou, ce qui était et bien plus intéressant et bien plus important, elle avait un indice qui pouvait servir à percer le mystère de ce retour. La phrase employée dans ce billet « J'ai une sérieuse raison pour demander cela » devait la faire pencher pour la dernière de ces deux interprétations. Tout impossible que cela pût sembler, Mrs. Glenarm pouvait savoir sur Arnold quelque chose dont Lady Lundy n'avait pas la moindre connaissance. La curiosité de sa seigneurie, déjà puissamment excitée par la lettre mystérieuse de Blanche, ne pouvait être calmée qu'en obtenant, à l'instant, les explications que pouvait fournir un entretien particulier.
« Hopkins, il faut que je voie Mistress Glenarm. »
Hopkins leva respectueusement les mains en l'air, comme si elle était saisie d'horreur.
« De la compagnie dans la chambre à coucher et dans l'état présent de la santé de sa seigneurie ?» s'écria-t-elle.
Une question de devoir, Hopkins. Donnez-moi un miroir. Hopkins apporta un élégant miroir à main. Lady Lundy s'y examina avec soin, depuis la tête jusqu'à la partie de son corps enfermée sous les draps. Au-dessus de toute critique, sous tous les rapports, même de la critique d'une femelle.
Introduisez Mistress Glenarm.
Une minute ou deux après, la veuve du marchand de fer fit son entrée dans la chambre à coucher, un peu exagérée dans sa toilette, comme toujours, et un peu prodigue en expression de gratitude, de reconnaissance pour la bonté de sa seigneurie et d'inquiétude au sujet de la santé de sa seigneurie. Lady Lundy endura ses compliments tant qu'elle put, puis l'arrêta d'un geste poli et aborda le point intéressant.
« Maintenant, ma chère, arrivons à la question que vous me posez dans votre billet. Est-il possible que vous ayez déjà appris qu'Arnold Brinkworth et sa femme sont revenus de Bade ?»
Mistress Glenarm ouvrit des yeux étonnés. Lady Lundy s'expliqua plus catégoriquement.
« Ils devaient visiter la Suisse, vous le savez, pour leur voyage de noces. Et ils ont tout à coup changé d'idée et sont revenus en Angleterre dimanche dernier. » « Chère Lady Lundy, il s'agit bien de cela. N'avez-vous rien appris sur Mr. Brinkworth ?»«
Rien. »«
Il y eut un silence. Mrs. Glenarm fit tourner avec embarras son ombrelle entre ses mains. Lady Lundy se pencha en avant sur son lit et la regarda attentivement. Mrs. Glenarm était de plus en plus embarrassée.
« C'est si difficile à dire,
commença-t-elle.
« Je puis tout supporter, hors l'incertitude, dit Lady Lundy. »
Mrs. Glenarm se décida donc à risquer l'aventure.
« N'avez-vous jamais entendu dire, demanda-t-elle, que Mr. Brinkworth s'était compromis avec une autre dame avant d'épouser Miss Lundy ?»
Sa seigneurie ferma d'abord les yeux avec horreur et chercha à tâtons le flacon d'odeur sur le couvre-pied.
Mrs. Glenarm le lui donna et attendit, avant d'ajouter un mot, pour voir comment sa seigneurie supporterait ce terrible coup.
« Il y a des choses qu'on doit entendre, » fit observer Lady Lundy. « J'entrevois ici un devoir à accomplir. Les mots ne sauraient exprimer combien vous m'étonnez. Qui vous a dit ?»«
Mr. Geoffrey Delamain. »
Sa seigneurie eut de nouveau recours au flacon d'odeur.
« Le plus intime ami d'Arnold, s'écria-t-elle, il doit savoir mieux que personne. C'est effroyable. Et comment, Mr. Geoffrey Delamain ?»«
Je suis sur le point de me marier avec lui, reprit Mrs. Glenarm.
C'est mon excuse, chère Lady Lundy, pour venir vous troubler l'esprit d'un pareil sujet. »
Lady Lundy entr'ouvrit les yeux dans un état de surprise feinte.
« Je ne comprends pas. Pour l'amour du ciel, expliquez-vous. »
« N'avez-vous pas entendu parler des lettres anonymes ?» demanda Mrs. Glenarm.
Oui, Lady Lundy avait entendu parler des lettres anonymes, mais elle ne savait que ce que tout le monde avait entendu dire.
Le nom de la dame qui était au fond de cette histoire n'avait pas été mentionné et Mr. Geoffrey Delamain se prétendait aussi innocent que l'enfant qui vient de naître. Cette allégation pouvait-elle être mise en doute ?
« Donnez-moi votre main, ma chère amie, et confiez-moi tout, » dit la châtelaine.
« Il n'est pas complètement innocent, » dit Mrs. Glenarm. « Il avoue un sot flirt. La femme seule est coupable sans doute. Naturellement, j'ai insisté pour avoir une explication catégorique. A-t-elle réellement un droit sur lui ? Pas l'ombre d'un droit. Je n'avais pour garantie que la parole de Geoffrey. Je le lui ai dit. » Il m'a répondu qu'il pouvait prouver ce qu'il avançait. Il m'a dit qu'il la savait secrètement marier un autre. Son mari l'avait reniée et abandonnée. Elle était à bout de ressources, assez désespérée pour tout tenter. J'ai considéré tout cela comme fort suspect jusqu'au moment où Geoffrey a prononcé le nom de l'homme. Ce nom devait me prouver certainement qu'il avait renié sa femme puisque ce gentleman a épousé une autre femme. » Lady Lundy se dressa soudain sur son séant, sous l'influence d'une agitation et d'une alarme, cette fois sincère.
« Mr. Delamain, vous a dit le nom de l'homme ? » fit-elle tout oppressée.
« Oui.
Est-ce que je le connais ?
Ne me demandez pas ce nom. »
Lady Lundy retomba sur ses oreillers.
Mrs. Glenarm se leva pour appeler du secours. Avant qu'elle eût pu atteindre le cordon de la sonnette, sa seigneurie était revenue à elle.
« Arrêtez !» s'écria-t-elle. « Je puis confirmer cela. C'est vrai, Mrs. Glenarm, c'est vrai. Ouvrez le coffret d'argent sur la table de toilette. La clé est à la serrure. Apportez-moi la lettre qui est la première sous votre main. C'est cela. Parcourez-la. Je l'ai reçue de Blanche. Pourquoi avait-il soudain interrompu leur voyage de noces ? Pourquoi était-il revenu chez Sir Patrick à l'Ermitage ? J'étais sûre que quelque chose d'affreux était arrivé. Maintenant, je vois ce que c'est. »
Elle retomba en arrière, les yeux fermés, et répéta ces mots à voix basse.
« Maintenant, je vois ce que c'est. »
Mrs. Glenarm lut la lettre. La raison que Blanche donnait à ce soudain retour était évidemment un subterfuge, et ce qui était encore plus extraordinaire, le nom d'Anne Sylvestre y était mêlé. Mrs. Glenarm devint à son tour fort agitée.
« C'est une confirmation sans doute, dit-elle. Mr. Brinkworth s'est trahi, la femme s'est mariée avec lui. Geoffrey est libre. Oh, ma chère amie, de quel poids d'anxiété vous avez soulagé mon esprit. Cette ville misérable !» Lady Lundy ouvrit soudain les yeux. « Que voulez-vous dire ? » demanda-t-elle. « La femme serait-elle au fond de tout ce malheur ?»«
Oui, je l'ai vue hier. Elle a osé pénétrer au cygne. Elle a appelé Geoffrey tout court. Elle a réclamé ses droits sur lui devant moi de la façon la plus audacieuse. Elle a ébranlé ma foi, Lady Lundy. Elle a ébranlé ma foi en Geoffrey.
Qui est-elle ? » ?»«
Qui ? » répéta Miss Glenarm. « Ne savez-vous même pas cela ? Mais son nom est répété à chaque ligne dans cette lettre. »
Lady Lundy poussa un cri terrible. Mistress Glenarm se leva vivement. La femme de chambre apparut à la porte toute tremblante. Lady Lundy lui fit signe de la main de se retirer à l'instant et montra un fauteuil à Mistress Glenarm.
« Asseyez-vous. Laissez-moi prendre une minute ou deux de repos. Je n'ai pas besoin d'autre chose. »
Le silence ne fut pas interrompu dans la chambre jusqu'au moment où Lady Lundy reprit la parole. Elle demanda la lettre de Blanche. Après l'avoir lue attentivement, elle la mit de côté et tomba pendant un moment dans de profondes réflexions.
« J'ai été injuste envers Blanche, » s'écria-t-elle. « Ma pauvre Blanche !»«
Vous pensez qu'elle ne sait rien de tout cela ?»«
J'en suis sûre !» « Vous oubliez, Mrs. Glenarm, que cette horrible découverte jette un doute sur le mariage de ma belle-fille. Pensez-vous que si elle savait la vérité, elle écrirait au sujet de la misérable qui l'a mortellement offensée ce qu'elle écrit ici ? Ils lui ont donné le change au moyen de l'excuse qu'elle me transmet dans son innocence. Je le vois aussi clairement que je vous vois moi-même. » Mr. Brinkworth et Sir Patrick sont ligués ensemble pour me laisser dans les ténèbres. La chère enfant, je lui dois une réparation. Si personne ne lui ouvre les yeux, c'est moi qui le ferai. Sir Patrick verra que Blanche a en moi une amie. »
Un sourire, le dangereux sourire d'une femme vindicative, tout à ses idées de vengeance, se montra sur son visage. Mrs. Glenarm en fut un peu surprise. Lady Lundy, si différente au fond de Lady Lundy à la surface, n'était pas un objet agréable à contempler.
« Je vous en prie, essayez de vous calmer, » dit Mistress Glenarm. « Chère Lady Lundy, vous m'effrayez. »
La bénigne surface de sa seigneurie reparut comme un voile jeté sur l'être intérieur qui s'était un moment exposé à la vue du prochain.
« Pardonnez-moi d'être aussi sensible, » dit-elle avec la douce patience qui la distinguait si éminemment dans les temps d'épreuve. « Ce coup est tombé un peu trop lourdement sur une pauvre femme, toute confiante et pourtant insultée par le plus cruel manque d'égard. Que ma position ne vous chagrine pas. Je prendrai le dessus, ma chère, je prendrai le dessus. » Dans cette effroyable calamité, dans cet abîme de scélératesse, de malheur et de trahison, je n'ai à compter que sur moi-même. Dans l'intérêt de Blanche, toute cette affaire doit être tirée au clair et sondée, ma chère, dans toutes ses profondeurs. Blanche doit prendre une position digne d'elle. Blanche doit faire valoir ses droits sous ma protection. Ne songeons pas à ce que j'aurai à souffrir et à sacrifier. C'est une œuvre de justice qui s'impose à moi, pauvre faible femme. Je l'accomplirai. » Et sa seigneurie s'éventa d'un air d'inébranlable résolution en répétant « Je l'accomplirai. » « Mais Lady Lundy, que pouvez-vous faire? Ils sont tous dans le sud. Et quant à l'abominable femme ?»
Lady Lundy toucha l'épaule de Mrs. Glenarm du bout de son éventail.
« Je vous tiens une surprise en réserve, cher ami, tout aussi bien que vous. Cette abominable femme a été employée dans cette maison comme institutrice de Blanche. Attendez, ce n'est pas tout. Elle nous a subitement quittés, elle s'est enfuie sous le prétexte qu'elle était secrètement mariée. Je sais où elle est allée, je ne puis savoir ce qu'elle a fait. Je puis découvrir qui était avec elle. Je peux suivre les démarches de Mr. Brinkworth, derrière les pas de Mr. Brinkworth. Je puis chercher la vérité sans me mettre sous la dépendance des gens compromis dans cette sombre affaire dont l'intérêt est de me tromper. Et je le ferai aujourd'hui même. »
Elle ferma brusquement son éventail d'un air triomphant et s'installa sur les oreillers pour jouir tranquillement de la surprise de son amie. Mrs. Glenarm se rapprocha du lit d'un air confidentiel.
« Comment allez-vous vous y prendre ? » demanda-t-elle avec avidité. « Ne me croyez pas curieuse, mais j'ai intérêt aussi à découvrir la vérité. Ne me laissez pas en dehors de tout cela, je vous en supplie.
« Pouvez-vous revenir ici demain à pareille heure ?»«
Oui, oui.
Venez donc et vous saurez tout.
Puis-je vous être de quelque utilité ?»«
Pas pour le moment.
Mon oncle peut-il vous être utile ?»
« Savez-vous comment communiquer avec le capitaine Newhaven ?»«
Oui, il réside avec quelques amis dans le comté de Sussex. »«
Il est possible que nous ayons besoin de son assistance. Je ne puis le dire encore. Ne faites pas attendre Mistress Delamain plus longtemps, ma chère. Je vous reverrai demain. » Elles échangèrent un affectueux embrassement et Lady Lundy resta seule. Sa seigneurie se plongea dans ses réflexions, les sourcils contractés et les lèvres closes. Elle paraissait bien son âge alors, plutôt un an ou deux de plus, tandis qu'elle était là, pensant, la tête appuyée sur sa main et le coude sur ses oreillers. Après s'être mise entre les mains du docteur et s'être soumise à prendre la potion de lavande rouge, le plus ordinaire sentiment de logique lui faisait une nécessité de garder le lit ce jour-là. Et pourtant, il était essentiel d'ouvrir immédiatement son enquête. D'un côté, le problème n'était pas aisé à résoudre. De l'autre, sa seigneurie ne se donnait pas aisément pour battue. Comment envoyer chercher l'aubergiste de Craig Fernie sans éveiller ses soupçons ou l'attention? Telle était la première question qui s'offrait à elle. En moins de 5 minutes, elle avait repassé dans sa mémoire le cours des événements survenus à Windygates et l'avait résolu. Son premier acte fut de sonner pour appeler la femme de chambre.
« Je vous ai presque effrayé, Hopkins. C'est la faute de mes nerfs. Mistress Glenarm a été un peu trop prompte à me donner une nouvelle qui m'a surprise. Je suis mieux maintenant et je puis m'occuper des affaires de la maison. Il y a une erreur dans le compte du boucher. Envoyez-moi la cuisinière. »
Elle prit le livre de dépenses et le rapport de la cuisine, corrigea l'erreur du boucher et vida l'arriéré des affaires domestiques avant de rappeler Hopkins. Ayant habilement prévenu tout rapprochement que cet Hopkins aurait pu être tenté de faire après le départ de Mistress Glenarm sur ce qui avait pu se passer pendant la visite de cette dame, Lady Lundy se sentit libre de préparer la voie aux investigations qu'elle était résolue à commencer avant de prendre son repos de la nuit.
« Pour les arrangements intérieurs, cela suffit, dit-elle. Vous devez me servir de premier ministre pendant que je suis retenue ici inactive. Manque-t-il quelque chose aux gens du dehors? Le cocher? Le jardinier? »
« Je viens de voir le jardinier, Milady. Il a porté les comptes de la semaine dernière. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas voir votre seigneurie aujourd'hui. »
« Très bien. Avait-il quelque rapport à faire ?»«
Non, Milady. »
« Bien certainement, j'avais quelque chose à lui dire, soit à lui, soit qu'à quelque autre. Mon livre de notes, Hopkins, dans la corbeille, sur cette chaise. Pourquoi la corbeille n'est-elle pas près de mon lit ?»
Hopkins apporta le livre de notes. Lady Lundy le consulta sans la moindre nécessité, mais justement avec la même gravité magistrale qu'avait déployée le docteur quand il avait écrit son ordonnance, également sans la moindre nécessité.
« Voilà ce que c'est, » dit-elle en recouvrant soudain la mémoire. « Ce n'est pas le jardinier, mais la femme du jardinier. Le livre de notes porte que j'ai à lui parler au sujet de Mistress Gingebert. Remarquez, Hopkins, ce que c'est que l'association des idées. Mistress Gingebert est associée dans mon esprit avec la question des volailles. Les volailles s'associent à la femme du jardinier, et voilà comment le jardinier m'est revenu à la mémoire. Comprenez-vous cela ? Je fais des efforts continuels pour améliorer mon esprit, vous comprenez ?
Très bien. Ah, maintenant, Mistress Gingebert.
Bien, Milady.
Je ne suis pas du tout sûre, Hopkins, d'avoir eu raison de ne pas prendre en considération le message que Mistress Gingebert m'a envoyé au sujet des volailles. Pourquoi n'offrirait-elle pas de prendre les bêtes que je ne veux pas garder ? C'est une femme respectable et il est important pour moi de vivre en bon terme avec tous mes voisins, grands et petits. A-t-elle un poulailler à Craig Fernie ? Oui, milady, et bien tenue, je puis le dire.
En vérité, je ne vois pas, après réflexion, Hopkins, pourquoi j'hésitais à traiter avec Miss Rizunbert. Je ne considère pas comme au-dessous de moi de vendre le gibier tué sur mes terres aux marchands de gibier. Que voulait-elle acheter? Quelques-unes de mes poules noires d'Espagne?
Oui, milady, les poules noires d'Espagne de votre seigneurie sont renommées dans tout le voisinage. Personne ne possède la même race. Et Miss Rizunbert veut partager avec moi l'avantage de posséder cette race. Je la verrai dès que je serai un peu mieux et je lui dirai que j'ai changé d'idée. Envoyez un des hommes à Craig Fernie avec un message, je ne pourrai garder une pareille misère dans ma mémoire. Allez-y tout de suite ou je l'oublierai. Qu'on dise à Miss Rizunbert que je désire la voir au sujet des poules dès qu'elle trouvera un moment à sa convenance pour venir ici. Je suis bien sûr, milady, que Miss Rizunbert, qui a si fort à cœur ses poules d'Espagne, viendra ici à l'instant et aussi vite que ses jambes pourront la porter. Dans ce cas, vous la conduirez à la femme du jardinier. Dites-lui qu'elle pourra avoir des œufs à la condition d'en payer le prix. Si elle vient, veillez à ce que j'en sois averti. Hopkins sortit, la maîtresse d'Hopkins se recoucha sur ses oreillers et s'éventa. Un sourire vindicatif reparut sur son visage. « Je m'imagine que je serai assez bien pour voir Miss Rizunbert, » pensa-t-elle, « et il est possible que la conversation s'égare au-delà des mérites de son poulailler et du mien. » Il y eut un laps de temps d'un peu moins de 2 heures. Hopkins avait bien auguré de l'enthousiasme de Miss Rizunbert pour les poules d'Espagne. L'active aubergiste apparut à Windygates sur les talons du serviteur chargé du message. Parmi la longue liste des faiblesses humaines, la passion des volatiles n'est pas plus condamnable et a sûrement plus d'avantages pratiques que la manie de collectionner des tabatières ou d'amasser des autographes et des timbres-postes. Quand l'hôtesse de Craig Fernie fut amenée devant la maîtresse de Windygates, Lady Lundy laissa voir une pointe de gaieté pour la première fois de sa vie. Sa seigneurie était égayée, sans doute par les propriétés exhilarantes de la potion de lavande rouge. Cette heureuse disposition s'exerça d'abord aux dépens de Miss Rizunbert. Bien ridicule, Hopkins, cette pauvre femme doit souffrir d'un transport de volailles au cerveau. Malade comme je suis, j'aurais pensé que rien ne pouvait m'amuser. Mais réellement, cette bonne créature, se mettant en ébullition et accourant ici, comme vous dites, aussi vite que ses pieds peuvent la porter, c'est irrésistible. Je pense positivement qu'il me faut voir Miss Rizunbert. Avec mes habitudes d'activité, l'emprisonnement dans cette chambre me sera mortel. Je ne puis ni dormir ni lire. J'ai besoin de quelque chose, Hopkins, qui apporte une distraction à mon esprit. Il me sera facile de me débarrasser d'elle si elle devient une fatigue pour moi. Faites-la monter. » Miss Rizunbert fit son apparition avec force révérence respectueuse et tout étonnée de la condescendance de sa seigneurie à laisser franchir les limites sacrées de sa chambre à coucher. « Prenez une chaise, » dit Lady Lundy gracieusement. « Je suis malade, comme vous pouvez vous en apercevoir. » « Ma foi, malade ou bien portante, votre seigneurie est fort belle à voir, » répliqua Miss Rizunbert, profondément impressionnée par l'élégance du costume sous lequel se montre la maladie dans les hautes régions de la vie fashionable. « Je suis loin d'être en état de recevoir, » continua Lady Lundy, « mais j'avais un motif pour désirer vous parler la première fois que vous viendriez dans ma maison. » J'ai négligé de traiter une offre que vous m'avez faite, il y a peu de temps, d'une façon amicale et de bon voisinage. Je regrette d'avoir oublié les égards que doit une personne dans ma position à une personne dans la vôtre. Je suis obligé de vous dire cela ici même, ajouta sa seigneurie en jetant un coup d'œil autour d'elle sur sa magnifique chambre à coucher, à cause de la promptitude inattendue avec laquelle vous êtes venu me rendre visite. « Vous n'avez pas perdu de temps, Miss Rizunbert, à profiter du message que j'ai eu le plaisir de vous envoyer. »« Eh, milady, je n'étais pas sûre, votre seigneurie ayant changé d'idée, que vous n'en changeriez pas encore si je ne m'empressais pas de battre, comme on dit, le fer pendant qu'il était chaud. Je vous demande pardon si je me suis un peu trop hâtée. Tout l'orgueil de mon cœur est dans mon poulailler, et les poules noires d'Espagne sont depuis longtemps une rude tentation pour moi. Si j'ai été la cause que vous ayez été induite en tentation, c'est innocemment, Miss Reginbert. Faites votre proposition et je serai heureuse de l'accueillir. Je serai contente si votre seigneurie voulait bien condescendre à m'accorder au moins une couvée d'œufs. Y a-t-il quelque chose que vous préféreriez à une couvée d'œufs ? Je préférerais, dit modestement Miss Reginbert, un coq et deux poules. Ouvrez le tiroir de la table derrière vous, dit Lady Lundy, et vous y trouverez du papier. Donnez-moi une feuille de ce papier et le crayon qui est sur le plateau. Avidement surveillée par Miss Reginbert, elle écrivit un ordre à la femme chargée du poulailler et le tendit à l'hôtelière avec un gracieux sourire. Prenez cela pour la femme du jardinier. Si vous tombez d'accord avec elle sur le prix, vous pourrez avoir le coq et les deux poules. Miss Reginbert ouvrit la bouche, sans doute pour exprimer l'excès de sa gratitude. Avant qu'elle eût dit trois mots, l'impatience de Lady Lundy d'arriver au but qu'elle s'était proposé depuis le départ de Miss Reginbert rompit les digues. Arrêtant l'aubergiste sans cérémonie, elle amena brusquement la conversation sur les faits et gestes d'Anne Sylvestre pendant son séjour à l'auberge de Craig Fernie. Comment vont les affaires de votre hôtel, Miss Reginbert ? Il doit y avoir abondance de touristes à cette époque de l'année. La maison est pleine, grâce à Dieu, milady, depuis les fondations jusqu'au comble. Vous avez eu, je crois, la visite d'une personne de ma connaissance. Une personne... Elle s'arrêta et s'imposa une forte contrainte. Il fallait bien céder à la dure nécessité de rendre ses questions intelligibles. Une dame, dit-elle, qui vint chez vous vers le milieu du mois dernier. Sa seigneurie voudrait-elle bien condescendre à me dire son nom ? Lady Lundy fit encore un plus grand effort sur elle-même. Sylvestre ! Dit-elle aigrement. Dieu nous protège ! S'écria Miss Reginbert. Ce ne peut être cette personne qui est arrivée seule, un sac de voyage à la main, et ayant laissé derrière elle, sur la route, un mari qui n'est arrivé qu'une heure après. Sans aucun doute, c'est elle. Serait-elle une amie de votre seigneurie ? Demanda Miss Reginbert en tâtant le terrain avec prudence. Certainement non, dit Lady Lundy. Je n'éprouve qu'une petite curiosité passagère à son sujet, rien de plus. Miss Reginbert parut soulagée. Pour dire la vérité, milady, il n'y a pas de sympathie entre nous. Elle a un caractère à elle et j'ai été charmée quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ce que vous me dites ne me surprend pas, Miss Reginbert. Je sais quelque chose de ce caractère. Ne vous ai-je pas entendu dire qu'elle était venue seule à l'hôtel et que son mari l'avait rejointe quelque temps après ? En effet, votre seigneurie, je ne pouvais pas lui donner une chambre dans l'hôtel tant que son mari n'était pas arrivé derrière ses talons pour répondre d'elle. Je pense avoir vu son mari, dit Lady Lundy. Quel genre d'homme est-ce ? Miss Reginbert répondit à peu près dans les mêmes termes qu'elle l'avait fait à Sir Patrick quand le baronnet lui avait adressé la même question. Et il était un peu jeune pour elle. Un joli homme, milady, ni grand ni petit, avec des yeux bruns, une figure pleine, des cheveux d'homme noir de charbon, un aimable garçon à la parole douce. Je n'ai rien à dire contre lui, si ce n'est qu'il est arrivé tard dans la journée et qu'il est parti de grand matin le lendemain, me laissant sur les bras le fardeau de madame. La réponse produisit exactement le même effet sur Lady Lundy qu'elle avait produit sur Sir Patrick. Elle aussi trouva que c'était trop vague. Cela répondait trop au signalement de tous les jeunes hommes. Mais sa seigneurie possédait un immense avantage sur son beau-frère en cherchant à découvrir la vérité. Elle soupçonnait Arnold. Elle pouvait aider la mémoire de Miss Reginbert par des suggestions puisées dans les ressources supérieures de son expérience et de son esprit d'observation. N'avait-il pas l'air d'un marin ? Demanda-t-elle. Et avez-vous remarqué, pendant que vous lui parliez, qu'il avait l'habitude de jouer avec un médaillon pendu à la chaîne de sa montre ? C'est bien lui de point en point, s'écria Miss Reginbert. Votre seigneurie le connaît bien, il n'y a pas de doute à avoir. « Je pensais bien que je l'avais vu, dit Lady Lundy. un jeune homme modeste et bien élevé, comme vous le dites, Miss Reginsberg. Que je ne retarde pas plus longtemps votre visite au poulailler. Je transgresse les ordres du docteur en causant. Nous sommes parfaitement d'accord maintenant, n'est-ce pas? Enchantée de vous avoir vue. Bonsoir. » C'est ainsi qu'elle congédia Miss Reginsberg. Elle avait atteint le but qu'elle se proposait. Bien des femmes se seraient contentées des renseignements qu'elle avait obtenus. Mais Lady Lundy, ayant affaire à un homme tel que Sir Patrick, résolut d'être doublement sûre de son fait avant de se décider à intervenir à l'ermitage. Elle avait appris de Miss Reginsberg que le prétendu mari d'Anne Sylvestre l'avait rejointe à Craigfernie le jour même où elle était arrivée à l'auberge et était repartie le lendemain matin. Anne s'était enfuie de Windygates pendant la fête de jour, c'est-à-dire le 11 août. Le lendemain, Arnold Brinkworth était parti dans le but de visiter le domaine que sa tante lui avait laissé en Écosse. Si l'on devait s'en rapporter à Miss Reginsberg, il devait être allé à Craigfernie au lieu de se rendre à sa destination et devait probablement être arrivé pour visiter sa maison et ses terres un jour plus tard que le jour ordinairement fixé pour cette visite. Si ce fait pouvait être prouvé par la déclaration de témoins désintéressés, les preuves contre Arnold seraient décuplées et Lady Lundy pourrait agir à raison de sa découverte avec une certitude presque entière. Après un peu de réflexion, elle se décida à envoyer un billet à l'adresse de l'intendant Arnold. Le motif qu'elle imagina, comme excuse et comme explication de cette étrange question posée à cet homme, était une petite discussion de famille relativement à la date exacte de l'arrivée d'Arnold à son domaine et un pari amical amené par cette discussion. L'intendant devait répondre et établir si son propriétaire était arrivé le 14 ou le 15 août. C'était tout ce qu'il fallait pour résoudre la question sur laquelle on était en désaccord. Après avoir écrit en ces termes, Lady Lundy donna les ordres nécessaires pour que le billet fût porté à la première heure le lendemain matin, le messager ayant pour instruction de prendre le premier train après la commission faite pour revenir à Windygates. Cela arrangé, sa seigneurie était libre de se rafraîchir au moyen d'une nouvelle dose de la potion de lavande rouge et de dormir du sommeil du juste. Elle ferma les yeux en pensant doucement qu'elle avait fait son devoir. Les événements se succédèrent à Windygates dans un ordre naturel. La poste arriva et n'apporta pas de réponse de Sir Patrick. Lady Lundy porta mentalement ce fait au compte débiteur que son beau-frère aurait à lui payer avec les intérêts quand le moment du règlement serait venu. Le messager revint avec la réponse de l'intendant. Il s'en était référé à son journal et répondait que Mr. Brinkworth avait bien écrit à l'avance pour annoncer son arrivée à son domaine le 14 août, mais qu'il n'était réellement arrivé que le 15. Cette découverte, nécessaire pour appuyer la déclaration de Miss Reginsberg, était maintenant en possession de Lady Lundy. Elle se décida à laisser passer encore un jour, laissant à Sir Patrick le temps de changer d'idée et de lui écrire. S'il n'arrivait pas de lettre et si elle ne recevait pas d'autres nouvelles de Blanche, elle quitterait Windygates par le premier train du matin et tenterait l'entreprise hardie d'une intervention personnelle à l'ermitage. Le troisième événement dans l'ordre successif des choses fut l'apparition du docteur qui venait faire sa visite professionnelle. Un rude coup l'attendait. Il trouva sa malade guérie par la potion. Cela était contraire à toutes les règles et à tous les précédents. Cela sentait l'empirisme. La lavande rouge n'avait point de telles propriétés à l'ordinaire. La malade était là, tout habillée et se disposant à partir pour Londres le lendemain. « Un devoir à accomplir, docteur, dit-elle. Au prix de quelque sacrifice que ce soit, il me faut partir. » Il n'y avait pas d'autre explication à demander. La malade était bien déterminée et il ne restait au médecin qu'à se retirer avec toute la dignité convenable, sa visite étant payée. C'est ce qu'il fit. « Notre art, dit-il en confidence à Lady Lundy, n'est rien après tout qu'un choix entre deux possibilités. » Par exemple, je vous vois non pas guéri, mais soutenu par une surexcitation anormale. J'ai à me demander quel est le moindre entre deux maux, de courir certains risques en vous laissant faire votre voyage ou de vous irriter les nerfs en vous faisant garder la maison. Avec votre constitution, nous pouvons hasarder le voyage. Ayez bien soin de tenir les vitres de la voiture fermées du côté où le vent souffle. Procurez-vous une chaleur modérée aux extrémités, maintenez votre esprit en repos, et je vous en prie, ne négligez pas de vous munir d'une seconde bouteille de ma potion avant de partir. » Il salua comme dans les occasions précédentes, glissa 2 guinées dans sa poche, comme à l'ordinaire, et s'en alla, comme toujours, avec l'approbation de sa conscience. Quelle enviable profession que la médecine, et pourquoi ne l'exerçons-nous pas tous ? Le dernier des événements fut l'arrivée de Mistress Glenarm. « Eh bien !» s'écria la veuve avec empressement. « Quelle nouvelle !» Les découvertes de sa seigneurie, exposées dans tous leurs détails, et l'annonce des résolutions de sa seigneurie, faites dans les termes les plus positifs, portèrent jusqu'au délire l'enthousiasme de Mistress Glenarm. « Vous allez à Londres samedi, dit-elle. Je partirai avec vous. Depuis que cette femme m'a déclaré qu'elle serait à Londres avant moi, je meurs d'envie de hâter mon voyage, et c'est une occasion si belle que de partir avec vous. Je pourrais facilement arranger cela. Mon oncle et moi, nous devions nous trouver à Londres la semaine prochaine pour la course. Je n'ai qu'à lui écrire pour lui annoncer le changement survenu dans mes plans. À propos, en parlant de mon oncle, j'ai eu des nouvelles des hommes de loi de Perth depuis que je vous ai vu. Encore des lettres anonymes ? Une encore, reçue 7 fois par les hommes de loi. Mon correspondant inconnu leur a écrit qu'il retirait sa proposition et qu'il avait quitté Perth. Les hommes de loi me recommandent d'empêcher mon oncle de dépenser inutilement de l'argent en employant la police de Londres. J'ai envoyé la lettre au capitaine et il viendra probablement à Londres pour voir ses sollicitors. Mais c'est assez parler de ce que j'ai fait moi-même. Et vous, chère Lady Lundy, quand nous aurons accompli notre voyage, que comptez-vous faire ? Rien que de simple, dit sa seigneurie avec colère. Sir Patrick aura de mes nouvelles dimanche matin à l'Ermitage. Vous lui direz ce que vous avez découvert ? Certainement non. Je lui annoncerai que j'ai été appelé à Londres pour affaires et que je me propose de lui faire une courte visite le lundi. Naturellement, il vous recevra. Je ne pense pas qu'il y ait un doute. La haine pour la veuve de son frère, après avoir laissé ma lettre sans réponse, n'ira point jusqu'à me fermer sa porte. Et quand vous serez là, ma chère, comment vous y prendrez-vous ? Quand je serai là, ma chère, je respirerai une atmosphère de fausseté et de mensonge, et dans l'intérêt de ma pauvre enfant, quelle que soit mon horreur pour toute dissimulation, il me faudra agir avec prudence. Pas un mot ne sortira de mes lèvres jusqu'au moment où j'aurai pu voir Blanche en particulier. Quelque pénible que cela puisse être, je ne reculerai pas devant l'accomplissement de mon devoir si mon devoir m'ordonne d'ouvrir ses yeux à la vérité. Sir Patrick et Mr. Brinkworth n'auront plus seulement affaire à une jeune créature sans expérience. Je serai là. Sur cette formidable déclaration, Lady Lundy mit fin à la conversation et Mrs. Glenarm se leva pour prendre congé d'elle. « Nous nous rencontrerons à la jonction, chère Lady Lundy. »« À la jonction, samedi. »